19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir ici, c'est ici que ça se passe. On commente et on analyse et on décrypte l'actualité, vous le savez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, ça nous fait évidemment chaud au cœur et je vous en remercie infiniment. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et jusqu'à 20h, vous savez, alors au programme de cette émission, de façon inédite, presque exclusive j'ai envie de dire, nous avons réussi à avoir l'infirmière Iman qui est rentrée de Gaza et qui a vécu des moments qui les... On va, vous allez l'entendre dans une poignée de minutes avant de la recevoir bientôt prochainement sur le plateau, ici même dans les informés. Elle va nous raconter un petit peu, elle va nous délivrer un petit peu ce qu'elle a vécu dans cette situation humanitaire, ce qu'elle a observé, ce qu'elle a vécu, mais surtout, elle rentre secouée puisqu'elle a, elle fait un carton pas possible sur les réseaux sociaux. Et elle est avec nous, donc je la remercie infiniment dans une poignée de minutes. Ensuite, avec les débatteurs influenceurs, ils sont quatre ce soir, ils vont confronter leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur la panthéonisation, vous savez, de Missak Manouchian, qui est en ce moment même en direct. On reviendra à la fois sur le sujet, mais également aussi, vous savez, on a oublié notamment cette politique noble, c'est-à-dire ces fameux résistants, mais où est passée cette politique noble? Je poserai la question tout à l'heure, sans à chaque fois trouver, évidemment, la petite phrase qui provoque de la polémique. Nous reviendrons aussi sur la situation, justement, avec les agriculteurs. Vous savez, Gabriel Attal qui propose un face-à-face à Marine Le Pen, qui elle-même lui propose un face-à-face avec Jordan Bardella. On parlait de la politique. Bah tiens, justement, on en parlera tout à l'heure. Le cessez-le-feu à Gaza, eh bien, on en parlera puisque vous savez que avec le veto américain au Conseil de sécurité, ça provoque encore de nouveau évidemment un questionnement, des interrogations. Nous en parlerons. Interpellé pour vol aggravé, c'est la sixième fois en 15 jours. Deux jeunes, vous savez, sous OQTF, eh bien, échappent à la prison. Sauf que ça provoque beaucoup de colère, à la fois chez certains politiques, mais également surtout chez les policiers. Nous en parlerons, peut-être que vous-même, vous êtes en colère parmi les auditeurs au 01 53 48 3000. Et puis le quoi de neuf tout à l'heure avec le docteur Majid Soussine à 19h50 précise, qui reviendra sur son regard et son billet d'humeur. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec l'infirmière Iman. Bonjour, bonsoir madame l'infirmière.
Oui, bonsoir monsieur l'animateur, bonsoir Iman.
Merci Iman en tout cas d'être avec nous. D'abord, vous venez de passer quelques jours, plusieurs jours d'ailleurs, dans une situation extrêmement périlleuse, laborieuse. Ça se passe à Gaza, en Palestine. Dites-moi tout d'abord, vous rentrez, en ce moment même, vous savez que vous faites un véritable carton sur les réseaux sociaux. Alors, vous, infirmière française Iman, je le rappelle quand même à nos auditeurs et nos auditrices, donc je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord, vous rentrez dans quel état d'esprit, ma chère Iman?
L'état d'esprit, il est trop mitigé pour le résumer en un seul mot. Il y en a trop. Je rentre avec l'envie d'y retourner. Ça, c'est la première chose. Je rentre avec l'envie de leur faire honneur, c'est-à-dire de porter leur voix à leur demande. Surtout, l'envie de vous dire et vous raconter ce qu'ils vivent au quotidien, l'envie de leur faire honneur, tout simplement. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, on parle beaucoup de ce qu'ils vivent. Je pense qu'il suffit de se connecter à n'importe quel réseau social pour entendre parler de ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, j'ai aussi envie de parler de leur force, de leur gentillesse, de leur accueil, de tout ça.
J'entends que vous êtes bouleversée, Iman, hein, vous, infirmière.
Oui.
Ou secouée, l'un des deux mots, ou peut-être les deux mots.
Oh oui, sûrement les deux, bien sûr.
On va écouter un extrait, vous savez quoi? Je vous propose simplement d'écouter un court extrait d'une interview, un échange que vous avez avec une assemblée. Et beaucoup disent que c'est un témoignage qui les a beaucoup bouleversés sur les réseaux sociaux. Justement, écoutons ce court extrait et on revient en parler. Oui. La vidéo arrive. C'est les aléas du direct. On va retrouver notre réalisateur Solal, va retrouver cette vidéo. J'aimerais beaucoup évidemment qu'on qu'on capte que c'était l'échange que, évidemment, de, sur les réseaux sociaux. C'était un témoignage. De quoi s'agit-il, de, justement, de cette vidéo qui dure à peu près 10-11 minutes? Vous échangez avec qui à ce moment-là, quand vous parlez d'un bébé, vous parlez aussi de plusieurs choses, vous parlez de ce que vous avez vécu là-bas? C'est quoi cette vidéo? Alors, qui circule en ce moment, en fait, sur les réseaux?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que on venait de 15 jours, on avait roulé très difficilement avec beaucoup de checkpoints, beaucoup de fatigue, on entrait avec beaucoup de fatigue entre l'hôpital européen, donc vers Khayounes, jusqu'au Caire, en Égypte, dans un minibus, c'est pas confortable, la fatigue, les émotions, il y avait un gros mélange. Et moi, le fait est que quand j'arrive à l'hôtel, dans cette, c'est un hôtel, quoi, un très bel hôtel. J'arrive et je prends, on a notre chambre. Et la première chose que je fais, c'est prendre une douche, d'accord? Parce que vous imaginez bien que là-bas, ça a été compliqué. Je prends une douche et je pleure sous la douche parce que pour moi, j'ai cette facilité à appuyer sur un bouton, avoir de l'eau chaude. Et je me dis, mais mince, quoi, tu viens de vivre ça, puis là, c'est. Tu peux prendre une douche. Donc là, j'ai beaucoup d'émotions sous la douche. Et ensuite, j'avais faim, j'avais pas mangé de la journée, j'avais un petit creux. Et j'étais très fatiguée. C'était retombé, beaucoup de stress. Moi, je vivais dans le stress depuis 4 semaines, donc les 2 semaines avant le départ et les 2 semaines sur place. Mais le fait d'avoir fini la mission et d'être arrivée, entre guillemets, en sécurité au Caire, dans l'hôtel, tout mon stress est retombé. Ça y est, j'étais officiellement en sécurité. J'ai un petit creux, je me dis bon, il faut pas que tu t'en... J'avais des remords de me commander à manger, mais je commande une petite pizza, vous voyez, quelque chose de très simple, et je suis triste de manger cette pizza. Ensuite, mes collègues me disent, il y a des parlementaires, ou je sais plus quel est le terme exactement qu'ils ont utilisé, qui sont venus faire une marche à Rafah, enfin j'ai pas tout compris, mais sur le moment, ils aimeraient nous rencontrer, est-ce que tu peux descendre? Et je leur dis, je descends leur serrer la main 5 minutes, les remercier d'être venus, puis je remonte, je suis fatiguée. Et au final, en fait, bon, ce sont des êtres humains, nous aussi, ils ont été vraiment très gentils, puis on a commencé à discuter. Et en fait, il y avait beaucoup d'émotions, parce que déjà, je n'avais pas saisi que j'étais filmée. En fait, comme mes collègues faisaient une interview, et moi je m'étais mise en retrait de mes collègues, je pensais qu'ils filmaient mes collègues, mais moi j'avais l'impression d'avoir une discussion avec juste ceux qui étaient autour de moi. Et en fait, je débite un peu machinalement, je sais pas si c'est machinal, justement pas, mais très naturellement, justement. J'ai débité un peu ce que j'avais sur le cœur parce que je revenais. Vous voyez, c'était à chaud. J'avais pas imaginé qu'on me demanderait de parler de Gaza, vraiment. J'avais pas imaginé que je serais là au téléphone avec.
Alors, on va en parler, vous, infirmière, donc Imane, on va en parler. On a retrouvé l'extrait. Je voudrais qu'on le propose quand même à nos auditeurs, celui qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Écoutons cet extrait.
Je n'imaginais pas ce qu'elle soit appelée pour un bébé de 48 heures qui est décédé d'hypothermie dans une tente. Et je m'y attendais pas du tout. Ça, il commence à mourir d'hypothermie. Il commence à mourir de faim. C'est très compliqué. C'est très, très dur. Même quand je dis c'est une catastrophe, j'ai l'impression que le mot est trop faible. C'est beaucoup plus qu'une catastrophe. On est plus loin que la catastrophe. Enfin, moi j'y suis allée en me disant mais j'ai pas de religion, j'ai pas de politique, je veux juste aider l'humain. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pareil pour eux. Ils ont juste besoin d'humains, en fait. Ils ont pas. À aucun moment ils parlent ne serait-ce que dire le mot Hamas, je l'entends pas, je parle arabe. Ils n'en parlent même pas. Ils parlent de leur mort, ils parlent de la situation, ils parlent de la guerre.
Alors la vidéo, j'invite tous les auditeurs à l'écouter, elle est disponible sur les réseaux sociaux et puis notamment sur YouTube. Dites-moi Imane, vous parlez d'un bébé, votre mission notamment, là vous racontez une de vos missions, une de vos interventions pardon, dans le cadre de cette mission, ça se passe où? Ça se passe à Gaza précisément?
Oui, tout à fait, à l'hôpital européen de Gaza.
Ouais. Alors à ce moment-là, quand vous êtes là, vous, c'est l'infirmière qui évidemment agit pour une intervention. À aucun moment vous êtes senti affaibli par quoi que ce soit. Vous êtes pas emporté par les émotions à ce moment-là. Hein, on est d'accord?
Non.
Non.
Non. Alors moi j'avais une limite. C'est ce que je répète. Moi je m'étais renseignée avant s'il y avait un service spécial qui accueillait les enfants, la pédiatrie, relance pédiatrique, réanimation, etc. Et si c'était séparé géographiquement. Historiquement, dans cet hôpital, il y a deux endroits séparés. Seulement, les patients qui arrivent dans l'urgence avec leur bébé dans les bras, ils foncent là où il y a écrit urgence. Ils ne cherchent pas urgence pédiatrique ou quoi que ce soit. Donc je me suis retrouvée à être avec à soigner beaucoup d'enfants. Et dans mon métier de tous les jours, j'ai choisi de ne pas soigner d'enfants parce que j'en ai beaucoup autour de moi. Et j'ai été nounou dans ma jeunesse. Et j'ai beaucoup de mal à soigner les enfants parce que j'ai beaucoup de mal à leur faire du mal. Mais ne serait-ce qu'enlever des fils ou faire une petite injection, ça fait mal. Une petite piqûre, ça fait mal. Et les voir pleurer, etc., j'ai du mal. Moi, je préfère faire des câlins et donner des bonbons aux enfants. Voilà. Mes neveux m'adorent, mes nièces aussi. Du coup, je ne pensais pas avoir à soigner des enfants.
Qu'est-ce que vous avez observé là-bas, Imane? Qu'est-ce qui vous a frappé, notamment? Qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce qui vous a frappé quand vous échangez avec les Palestiniens?
Tellement de choses. Moi, ce qui m'a frappé et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'ils continuent à avoir la foi. La foi et l'espoir, ils continuent à avoir de l'espoir dans la paix, dans l'humain. Ils pensent qu'on va venir quand même les secourir. Ils sont résilients, malgré tout. Et ça, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'ils soient tous abattus. Alors, ils sont abattus. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, ils dorment n'importe comment. Mais ils disent toujours « Dieu merci ». Il y a pire. Alors, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a toujours quelqu'un qui est pire qu'eux.
Dites-moi, parce que beaucoup se posent la question, est-ce qu'ils sont politisés? Est-ce que beaucoup parlent du Hamas, comme on peut l'entendre ici, depuis l'Occident? Est-ce que non, c'est tout autre chose? C'est-à-dire que eux, ils savent ils sont en train de vivre une véritable guerre, et ils sont un peu sonnés. C'est quoi? Qu'est-ce qui se dit enfin, est-ce que le discours est politisé?
Ils sont pas connectés, il y a pas la télé, il y a une télé dans le bureau du directeur qui est connectée sur Al Jazeera, mais ils sont pas connectés, ils sont pas ultra connectés à la télé. Ils ont un peu les réseaux, mais il y a pas de wifi, ou quand il y en a, elle est très faible. Ils arrivent à voir certaines choses, mais sans plus. Mais après moi, je parle en ma qualité, avoir eu une discussion politique, j'en ai eu une avec un réanimateur qui me montrait sa maison et qui me disait, mais Imane, si tu savais ce que moi j'en pense d'eux. J'ai jamais été pour eux et pourtant, regarde, je lui dis, mais attends, mais nous en France, en tout cas, on nous dit qu'il n'y a que des attaques ciblées, que quand ils ciblent une maison ou un endroit, c'est qu'ils ont eu un renseignement que cette maison, cette personne, quelqu'un, la personne qui vivait là, était du Hamas. Je lui dis, c'est bizarre ton truc. Et il me montre sa maison, il me dit, mais si tu savais ce que j'en pense, je n'ai jamais été ni politisé, ni pour eux. Je ne les soutiens pas du tout, avant tout ça. Il me dit, tu sais, ils n'ont pas eu 100% de voix aux élections. Donc non, c'est la seule fois où j'ai vraiment une discussion profonde, un peu, on va dire, sur ce plan-là avec quelqu'un. Mais sinon, ils n'en parlent pas. Ils sont en deuil. Pourquoi ils en parleraient?
Quelqu'un qui vous dit, si j'ai bien compris, je ne suis pas, quand il dit je ne suis pas avec eux, il fait référence au Hamas. Il dit je ne suis pas avec le Hamas et pourtant ma maison est visée. C'est ce qui...
Exactement. C'est ça. Sa maison a été... Il m'a montré la vidéo.
Comment ils voient leur avenir, les Palestiniens, quand ils voient évidemment là ce qui est en train de se dérouler depuis le 7 octobre, ce qui s'abat d'ailleurs sur Gaza, sur Rafah et puis sur toutes les autres villes avoisinantes? Comment ils voient eux leur avenir? Qu'est-ce qu'ils se disent sur l'instant présent? Est-ce qu'ils voient une issue de sortie justement avec les Israéliens?
Alors, ils ont beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que je me souviens d'un soir où d'un coup j'ai commencé à entendre comme si les enfants fêtaient quelque chose. Il y a eu un brouhaha à l'extérieur et puis les gens se parlaient beaucoup. Il y a eu quelque chose et je demandais qu'est-ce qui se passe. Et on me dit, mais il va y avoir un cessez-le-feu de 6 semaines. Il y a une rumeur comme ça qui a enflé dans les couloirs. Ils ont espoir d'un cessez-le-feu et ils sont persuadés que les êtres humains qu'ils ont en face auront un moment, un éclair de lucidité par rapport au mois de Ramadan.
Est-ce que vous avez senti une haine à l'égard de leurs voisins, de leurs voisins israéliens? Est-ce que vous avez senti que non, au contraire, ils comprennent la situation et ils font pas l'amalgame de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils savent séparer les choses?
En tout cas, je sais pas, ça je saurais pas y répondre. Ce que je sais, c'est que en ce qui concerne le monde, d'accord, le monde, le fait que le monde ne vienne pas les aider, ils font bien le distinguo entre le peuple, ça c'est certain. Ils font le distinguo entre le peuple et le gouvernement. Par exemple, d'eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui m'ont appris qu'il y avait des manifestations en Israël contre Netanyahou, c'est-à-dire contre ce qui se passe actuellement chez eux. Et ça, ils en sont contents. Ils savent que beaucoup de personnes les soutiennent, mais que ce sont les gouvernements, ce sont les dissidents qui ne peuvent rien faire. Vous voyez ? Ça, ils le disent. Mais parler de leurs voisins, sincèrement, je n'ai pas eu de discussion assez profonde pour comprendre. Ils savent que les peuples, que ce soit le peuple d'Israël ou le peuple dans le monde, le peuple du monde arabe, le peuple du monde occidental, ils savent, ils voient les manifestations. C'est pour ça que moi j'appelle à manifester. Certaines images leur parviennent. Et je dis, il faut manifester, il faut leur montrer qu'on est avec eux. Ça leur donne de la force, vraiment.
Imen, dites-moi, voilà. Mais de toute façon, il faut que vous veniez la semaine prochaine sur le plateau. Je vais organiser un débat, bah, parce que je tiens absolument, et c'est important. C'est important de parler de la situation actuelle, un débat avec des contradicteurs, avec aussi des élus qui, eux, sont plutôt pour le 7... Enfin, pas pour le 7 octobre, pardonnez-moi, qui, eux, soutiennent évidemment tous ces otages, même si tout le monde, évidemment, il y a une... Comment dirais-je, une concorde. Mais voilà, je ramènerai des contradicteurs pour qu'on essaye de faire avancer le débat, parce que c'est aussi l'objet, évidemment, de nous tous. Dites-moi, Imen, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à celles et ceux qui vous écoutent ?
Moi, mon message, il est humaniste et il est universel. Je demande bien évidemment un cessez-le-feu, et ce, tout de suite, il faut un cessez-le-feu. Pour cela, il faut que toute personne capable de boycotter toutes ces marques qui apportent leur aide à l'armée, il faut bien évidemment boycotter, il faut manifester. Pourquoi manifester ? Parce que il faut montrer à nos gouvernements, au gouvernement du monde entier, que nous ne sommes pas d'accord avec ce silence. Il y a des innocents qui meurent, nous ne sommes pas d'accord avec ce silence, il faut manifester et il faut demander un cessez-le-feu. Il y a une manifestation qui est prévue demain devant le ministère des Affaires étrangères. Il y a des manifestations tous les week-ends, tous les samedis quasiment, dans toutes les villes de France et du monde d'ailleurs, pour montrer que nous sommes contre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se réveille. Tout ce qui se passe actuellement sera étudié dans les cours d'histoire dans 10, 20, 30 ans. Nos enfants, nos petits-enfants, moi j'ai deux filles, je me projette dans 40 ans, 50 ans, je serai grand-mère peut-être. Et mes petits-enfants me diront, mamie, qu'est-ce que tu as fait en 2023, on étudie qui s'est passé au 7 octobre. Qu'est-ce
Merci.
Que tu as fait, toi ?
Absolument.
Et je veux il faut que tout le monde puisse se projeter et se dire, mais qu'est-ce que je répondrai à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes petits-voisins, à mes neveux, nièces, ceux qui me poseront la question.
Merci, Imen.
Ne soyez pas passifs de ce qui se passe, s'il vous plaît.
Imen, de toute façon, je vous attends sur le plateau la semaine prochaine. Merci Imen, vous êtes l'infirmière donc française, l'infirmière française Imen qui s'est rendue pendant deux semaines en Palestine pour intervenir dans cette situation humanitaire et à la fois donc venir soutenir les Palestiniens et je parle médical aussi. Merci Imen. À bientôt.
Avec plaisir, à bientôt, merci à vous.
À bientôt, 19h17 précisément. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes justement pour parler de tous ces sujets qui ont secoué notre journée. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Justement le face-à-face. C'est parti chers amis, 19h23.
Les informés. Le face-à-face.
Arim Maloum, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Tout ça va très bien. Nous venons de passer une bonne journée. Nous honorons aujourd'hui les combattants de la liberté étrangère.
On va en parler.
Et surtout, j'ai un titre personnel, ma famille est concernée. Et c'est un grand moment aujourd'hui. Je suis même très content de le dire, de venir, de discuter, de débattre sur votre radio.
Avec plaisir, en tout cas, vous êtes entrepreneur, mais pas que aussi. Vous avez écrit des ouvrages, etc. Écrivain, journaliste. Bref, à ses côtés, un journaliste aussi qui s'appelle Merwan Mioubi. Bonsoir, Merwan.
Bonsoir, Adil.
Alors, il est sans costume aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, Karim Alouache ?
Télétravail.
D'habitude, c'est le costume.
Ouais, mais là,
costume
c'est
classe, trois pièces, le mec qui vient à la British.
Ben là, c'est le télétravail.
Ouais, télétravail, c'est comme ça qu'on bosse, là ? C'est,
bah, avec son tu veux, bah, c'est pas mal, quand
même, non ? Il se met un costume avec lui-même.
Tu sais, il y en a qui se mettent en caleçon aussi.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Ouais, mais il fait froid, quand même, en ce moment.
Ouais. On est en hiver aussi.
Pierre-Henri, comment ça va, le président, le patron de France Fraternité ?
Eh bien, ça va bien. Et puis, toujours plaisant d'être à vos côtés, Adil.
Partagez
et aux côtés des auditrices et des auditeurs de Beurre FM.
Et une veste.
Il a une veste, il est toujours avec une veste. Hein. Messieurs, nous allons démarrer avec ce sujet en ce
J'essaie
moment même.
J'essaie de ne pas en changer.
L'édition, exactement, l'édition spéciale en ce moment même concernant Michak Manouchian, on peut dire les deux, au Panthéon en ce moment même. Dites-moi, messieurs, on fait un tour de tête d'abord sur, vous savez, avant de venir sur la polémique malheureuse hein, concernant Marine Le Pen. Vous l'avez tous suivi, Karim Maloum.
Bah, sur l'événement, c'est un événement important, je pense, qui marque notre histoire aussi. C'est bien parce que ça fait 80 ans, c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait très longtemps que nous rendons aujourd'hui hommage à tous ces combattants de la liberté qui sont venus de l'étranger, qui sont venus se battre pour la démocratie. Si aujourd'hui on débat aussi, ils ont participé à nous permettre de débattre aujourd'hui. Je pense à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui se sont battus et qui ont construit ce pays, etc.
Donc vous avez l'air solennel, non?
Absolument.
Pourquoi,
parce que j'ai quelqu'un de la famille qui était blessé. Quelques années après, il est mort parce qu'il n'a pas pu résister à ses blessures. On oublie aussi, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de personnes.
Vous parlez de résistance, là.
Je parle des résistants, bien sûr. Ils sont
faites
revenus.
Référence à quel événement?
Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que c'est important de le dire parce qu'on dit beaucoup de choses aujourd'hui de ce qui se passe dans notre pays. J'ai l'impression qu'on n'a plus de mémoire. On oublie tout ça, que les étrangers ont apporté beaucoup de choses à ce pays au-delà. Ce sont des combattants pour la liberté, mais aussi ils ont participé à construire ce pays. Après, il y a une nouvelle page qui s'est ouverte. On débat tout à l'heure sur les OQTF. On reviendra sur le sujet. Mais restons sur ce point. Rendons hommage à tous ces militants de la liberté.
Qu'est-ce que vous pensez que le fait que Marine Le Pen, beaucoup disent que je pense que Marine Le Pen aurait eu quand même la décence de ne pas venir?
Effectivement, parce que, en fait, cette polémique, tant que le Rassemblement national, il ne s'est pas démarqué du Front National, de l'histoire et des fondateurs qui ont été par les membres de l'OS, de l'Algérie française, les gens qui ont combattu la résistance aussi, tant que
le
Rassemblement national
aussi avec le nazisme.
Bien sûr, je viens de dire, ils ont combattu les résistances, ils étaient alliés du nazisme. Tant que ce mouvement ne s'est pas démarqué de cette histoire, nous restons vigilants, nous n'avons aucune confiance. Effectivement, elle n'avait pas sa place.
Même si elle est élue.
C'est un autre sujet parce que elle est. Moi, je ne partage pas l'idée de dire que quelqu'un, que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain, comme le président de la République l'a dit. Je pense qu'il se trompe, parce que être dans l'arc républicain, c'est de respecter les institutions. Quand on est élu, on respecte les urnes, et quand on est battu, on respecte aussi les urnes. À partir de ce moment, on peut dire qu'on est dans l'arc républicain. Mais pour terminer, c'est un hommage où le Rassemblement national n'avait pas sa place. Historiquement, ils n'ont pas joué le jeu.
Pierre-Henri, justement, je vous ai vu, hein, c'est le deux registres. Hein. Qu'est-ce qui vous fait réagir et puis comment vous réagissez à tout cela? Et notamment sur la notion de la résistance, hein, parce c'est important de le rappeler, c'est vrai, ces moments terribles.
C'est une journée très importante et historiquement, et surtout pour les gens de ma génération, et j'espère pour toutes les autres générations qui viennent, parce que moi j'ai été bercé dans... cette histoire de la résistance par exemple j'ai en tête l'affiche rouge de Léo Ferré avec ces phrases inoubliables nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnèrent leur cœur avant le temps. Et c'est une leçon de courage que des jeunes gens qui avaient 20 ans ont donné leur vie pour la France. Ce moment d'histoire, il faut le partager, mais il faut le prolonger. Parce que les fils et les filles de ces résistants, ben, ils sont là, ils sont au milieu de nous, ils font la France, ils font France. Et je pense que on l'oublie beaucoup trop souvent, et que dans cette société qui est extrêmement clivée, qui est extrêmement fracturée, en fait, on assiste tous les jours à une stigmatisation d'une partie de la population, et ça ne me semble pas acceptable et ça ne doit pas être accepté. Donc et quant au Rassemblement National, ben écoutez, c'est très très clair pour moi. Les valeurs du Rassemblement national, de ceux qui votent pour le Rassemblement national, sont aux antipodes de ce que Michel Manoukian et Méliné Manoukian portent en leur cœur. Et donc, ils n'ont rien à faire dans cette cérémonie. Peu importe, je vous le dis, peu importe qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale, leur place n'est pas là. Et ils, par leur présence, ils salissent l'histoire des Manoukian et de tous les étrangers qui ont donné leur vie pour la France et qui continuent à la construire.
Karim Alouache. Bah, et ensuite Merwan Mehoubi.
Alors, c'est une journée importante. Et puis en plus, moi je suis petit-fils de tirailleur algérien qui a été raflé en Algérie pour aller combattre les Allemands. Mon grand-père est arrivé en France en 40 et il n'est jamais rentré en Algérie. D'ailleurs, parce qu'après après avoir été libéré des camps de prisonniers allemands en 1946, on lui a dit tu dois rester en France parce qu'il faut reconstruire, il fallait reconstruire la France. Donc, quelque part, ça me fait un peu rigoler quand on vient nous stigmatiser sur est-ce que vous êtes français ou pas. Je pense qu'on a contribué et j'aimerais qu'un jour, tous ces anciens combattants, comme mon grand-père, qui n'est plus là aujourd'hui, soient aussi reconnus parce que c'est des gens qui ont énormément donné à la France et qui je pense aimait beaucoup la France.
Ils étaient 150 000, pas précis.
Pour revenir aux commémorations, à l'entrée en Panthéon, c'est vrai que c'est important et que c'est bien de revenir un peu à l'histoire. On sent aussi une volonté de ressouder les Français parce qu'ils sont tellement divisés, ils sont tellement chahuté que quelque part j'ai envie de dire que ça cet événement tombe bien.
Oh mais ressouder les Français le temps d'un moment, c'est
même pas parce qu'en fait ça l'a pas fait parce que l'histoire est aussi pas bien enseignée dans les écoles. Y a beaucoup de gens qui découvrent Manoukian qui connaissent même pas cette histoire. Et surtout le fait de dire que la France a toujours été une terre en fait multiculturelle, multiethnique et que la France a vécu ce côté patriote. Quand il a fallu défendre la patrie, entre guillemets, on n'a pas regardé si on était algérien, sénégalais ou autre. Pour revenir à l'histoire du Rassemblement National, ça m'embête d'en parler parce que chaque fois, quelque part, on fait un peu de la pub et on en fait un débat. Il y a deux choses, dans les institutions, tout ce qui est officiel, si le Rassemblement National est considéré comme un parti légal, officiel et représenté, on n'a pas discuté en fait de la présence ou de la non-présence. D'ailleurs, j'ai vu que le président Macron a dit tout et son contraire sur le Rassemblement National. À un moment, ils sont dans la République, à un moment, ils ne sont pas dans la République.
Son premier ministre.
Et je pense que on remet toujours un jeton dans la machine, avec exactement. Eux. Et moi, je ne suis pas dupe. C'est le jeu de Macron de faire
d'autant
peur
que ça
avec le RN et de faire le RN fort.
D'autant que les renforce plus.
Tiens, prenez la parole justement. Ouais.
D'autant que ça les renforce d'avoir la stratégie en permanence de vouloir les mettre de côté, de se mettre les mains devant les yeux, de dire non, ils n'existent pas. Non, en réalité, ils existent et c'est le premier parti de France et ils ont donc un poids politique et représentent aussi des Français. Alors que on considère que leur héritage ne correspond pas à à ce qu'on rend hommage ce soir, sans doute. Le fait est aussi que en faisant ça, on ne fait que rajouter de la division à la division, ce qui n'est pas du tout l'objet de la lettre de Manoukian, parce que si vous avez lu sa lettre, il est question de paix et surtout de ne pas en vouloir.
Il est surtout de question de paix avec la patrie, avec les Allemands.
Il y a surtout la France, il y a surtout une phrase qui dit...
Et surtout pas avec les collabos et ceux qui ont trahi les Manoukian.
Mais il n'y a pas d'amalgame qui est fait aussi.
Je pense qu'il faut faire vachement la différence, on peut en parler, mais aujourd'hui, le Rassemblement National, ce n'est pas le Front National. Parce que pour combattre un adversaire, il faut le reconnaître, ses compétences, et reconnaître qu'il est capable, il est fort. Si le marginaliser, le stigmatiser, ou même le mépriser, c'est une façon de le renforcer.
Et c'est contre-productif.
Je pense que le Rassemblement National est un parti aujourd'hui puissant dans ce pays. Quand on voit le dernier sondage sur l'élection présidentielle, même sur les élections européennes, l'extrême droite en général sont 44%. C'est-à-dire 44%, si on fait des élections aujourd'hui, elle est élue président de la République. Dire
on peut pas
ça,
attendre.
J'ai pas fini.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut combattre.
Très important.
La manière comment vous le présentez, c'est rien. Non, je pense, ils sont forts, ils sont forts.
Ça n'a dit que c'était rien.
Il faut les combattre. Et il faut combattre leurs idées, aidés par idées. Comme aujourd'hui, les Français, c'est votre pour eux, pourquoi? Il y a des choses qui sont claires. L'insécurité, la violence, l'islamisme. Et on va en parler des OQTF. Et bien, le déclassement.
C'est le deuxième sujet, justement.
Voilà, le déclassement, la fracture territoriale. Ça, mais c'est du sérieux.
Et
c'est ça qu'il faut combattre.
Alors, allez-y. Ouais.
Alors, c'est pas dire que. Ensuite, on marque une pause. Non, il faut combattre. Idée par idée.
Si le Rassemblement national a progressé, c'est bien qu'il a trouvé un terreau et. Qu'un certain nombre de gens se trouvent délaissés par les politiques publiques et donc se disent après tout pourquoi pas essayer. Et il y a tout simplement autour du Rassemblement national aussi une frange véritablement d'extrême droite totalement idéologisée, qui est profondément raciste, xénophobe, et qui, en cas d'arrivée au pouvoir, mettra à mal les valeurs universelles de la République. Eh bien ça, il faut aller discuter effectivement avec eux dans des cadres qui sont loyaux. Ce qui ne se passe pas sur les chaînes de la radio,
on s'est mis beaucoup en retard.
Des radios d'extrême droite.
19h36, s'il vous plaît, je marque une pause et il faut qu'on avance dans les sujets. Malheureusement, je ne peux pas faire réagir tout le monde, sinon on va faire complètement le sujet autour de cette émission. Parce que je voudrais qu'on parle, tiens, Karim Maloum va en parler. Les OQTF, justement, ça fait, ça pose question et ça fait question. On en parle tout de suite après la pause. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h40, vous le savez, c'est les informés comme chaque soir. Évidemment, bien sûr, vous êtes les bienvenus avec Karim Maloum, avec Merwan Mioubi, avec Pierre-Henri et enfin avec Karim Alouache. Messieurs, vous savez, nous allons parler des OQTF. Ça a été lâché par Karim Maloum, justement. Parlons-en. Parlons-en aussi, parfois, les sujets qui fâchent. Eh bien, sachez que deux jeunes ont été interpellés pour voir l'aggraver. Il s'agit de la sixième fois en 15 jours. Sauf que, vous savez, ils étaient placés sous OQTF. Hein. Ils échappent à la prison et puis ils laissent éclater leur joie. Sauf que ça provoque à la fois la colère des politiques, mais surtout la colère des policiers. Les policiers qui considèrent que c'est une catastrophe, il faut que ça s'arrête. Ils n'en peuvent plus, ils disent que ça devient insupportable. Est-ce que ça ne risque pas de créer la haine dans la haine? J'ai l'impression, j'ai le sentiment. Karim,
absolument. Au fait, c'est pas la première fois.
Absolument, d'accord.
Bien sûr.
Bon.
Bah oui, il y a de la... Pourquoi?
Bien tranché.
Ah oui, mais c'est un fait. Toujours. Parce que quand on va nous expliquer qu'on se rend compte, les OQTF... Ils sont responsables des attentats terroristes. Je rappelle ce qui s'est passé en 2017 à la gare de Marseille. Vous pouvez le nier si vous voulez. Ils ont participé à violer des femmes. Ils ont participé à violer des petites filles. Ils ont volé.
Non, c'est pas du tout vrai.
C'est pas vrai. Laissez-moi.
Mais les attentats, c'est pas des OQTF.
Laissez-le finir.
En 2017 à Marseille, ils étaient des Tunisiens OQTF. Vous pouvez le nier, vous consultez n'importe quel article de presse, il vous dira, c'est
son utilisé en faire une généralité.
Laissez-moi terminer.
Laissez-le finir.
Aujourd'hui, il y en a entre 300 et 400 000 OQTF, n'en parlons pas des clandestins, des sans-papiers. Donc on se retrouve, ils sont dans la nature, c'est un grand problème. À chaque fois, il y a une violence, à chaque fois, il y a une agression. Les gens vérifient la première chose, c'est un OQTF. Ce qui explique aussi que les gens sont fatigués de cette situation et préfèrent le Rassemblement National et préfèrent les gens qui montent de l'ordre, ils veulent un peu de l'ordre. Effectivement, ces gens, c'est quoi un OQTF? Si quelqu'un qui n'a pas respecté les lois, on a décidé de l'expulser. Et pas quand il reste sur le territoire.
Alors Pierre-Henri, ensuite Karim Alouache, ensuite Merwan. Justement,
je vais essayer de faire très court, mais il y a une politique publique en France qui fait de ce pays le champion d'Europe des OQTF, c'est-à-dire des ordonnances à quitter le territoire français. Il y en a 140 000 en France qui sont délivrées chaque année. En Allemagne, pendant le même temps, qui n'est pas un pays laxiste, il y en a 50 000. Ce qui veut dire qu'en Allemagne, on cible un peu plus les personnes qui vont être mises sous OQTF et dont le but est évidemment de renvoyer les gens dans leur pays. Donc, quand on parle des OQTF, on parle d'une politique publique. Et moi, je vais vous dire, je ne suis pas choqué que l'on reconduise des personnes qui sont délinquantes et qui sont sous OQTF, qui ont fait des délits graves, atteinte aux personnes, atteinte aux biens. Bon, voilà. Et de ce point de vue, je ne suis pas le premier à me lever le matin pour dire Darmanin, au-delà de sa politique de communication, a tort de renvoyer des personnes délinquantes sous OQTF. Là, nous avons des jeunes. Alors, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas pourquoi les juges ont libéré ces jeunes gens, mais ce que je sais, c'est que je comprends que dans un certain nombre de circonstances, la police puisse être agacée, parce que si vous arrêtez les mêmes zozos qui font un certain nombre de...
Bah pour la sixième fois en 15 jours.
Voilà. Et que en gros, ils sont dehors et qu'ils font les kékés sur les réseaux sociaux, ça pose un problème, évidemment. Et donc, voilà, mais il faut connaître le dossier pour pouvoir se prononcer. Donc, en clair, les personnes qui sont sous OQTF, qui ont commis des crimes et des délits, qu'ils soient renvoyés, ne pose pas de problème.
Karine,
non, parce que je fais la distinction, ça concerne 3 à 4 000 personnes. Vous avez aussi des OQTF qui sont délivrés à des gens qui sont parfaitement en situation régulière et qui simplement ne voient pas leur titre de séjour renouvelé parce qu'il n'y a pas le personnel nécessaire dans les préfectures. Donc il faut faire la distinction.
Karine, je reviens.
Moi, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger et surtout pas faire de généralité.
Bien sûr.
D'abord, quelqu'un qui commet un délit, il doit être condamné, il doit être jugé, condamné et faire sa peine. Aujourd'hui, c'est au-delà.
Sauf que là, ils ont été jugés.
Non, mais au-delà de QTF, ça n'a rien à voir en fait. C'est des gens qui commettent des délits à répétition, au QTF, pas au QTF, on s'en fiche, et qui sont toujours en train de circuler. Oui, vous ne vous rendez pas compte à quel point aujourd'hui il y a un sentiment d'impunité dans ce pays.
Ou de laxisme.
Je parle de ceux qui commettent des délits. C'est ceux qui commettent des délits aujourd'hui n'ont pas peur de la loi parce qu'ils savent que la loi, d'abord, elle n'est pas appliquée.
Elle ne sera pas respectée.
Et en plus, quand bien même ils seront condamnés, ils feront pas leur peine. On a un problème général. C'est pas parce que tu es au QTF ou pas au QTF, ça n'a rien à voir. En ce qui concerne le QTF, comme l'a dit, moi je connais des gens, oui, leur titre de séjour n'a pas été renouvelé. Pourquoi ? Défaillance administrative. Et ils ont une obligation de quitter le territoire. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on règle ce problème finalement. Comment vous voulez renvoyer quelqu'un chez lui, soit quand vous ne savez pas d'où il vient.
Et qu'en plus, il peut revenir.
Et c'est tout un des cas. Ou quand on a le sujet des laissez-passer consulaires, où le pays qui doit, en théorie, les accueillir, les accepte ou ne les accepte pas. Mais à un moment donné, si les gens qui commettent un délit, quel qu'il soit, il n'y a pas une règle plus ou moins en fonction de ce que vous êtes, sont immédiatement arrêtés, jugés, incarcérés. Et s'ils ont commis un délit qui vaut 3 mois, 4 mois, 6 mois, ils vont faire les 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ben, les attitudes, elles vont changer. Il faut se mettre aussi à la place de la population. Vous faites agresser, vous croisez 3 jours après le gars qui vous a agressé dans la rue. Ou qui vous a. On a les pickpockets, c'est un phénomène incroyable. Je ne sais pas comment vont se dérouler. Je sais pas comment vont se dérouler les Jeux Olympiques, mais ça fait vraiment peur.
Ça
me fait rire parce que j'ai vu une émission hier où on parlait des personnes qui se font voler leur identité. D'accord ? Qui se retrouvent dans des situations incroyables. Et on vous dit, vol d'identité, c'est 45 000 euros, 3 ans de prison, etc. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été condamné à ça.
Non,
bien sûr. C'est souvent les peines maximales dont on parle. Donc oui, il y a vraiment un vrai problème en termes de moyens au niveau de la justice et aussi de la police, et aussi d'accord entre les deux, puisque on voit très bien que la police essaye de faire son travail, mais que derrière, on a une justice qui est très laxiste. Mais il y a aussi une partie internationale, un sujet international. Donc d'accord européen. D'une première part, mais aussi avec les autres pays africains, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, où il faut des accords pour pouvoir aussi faire en sorte que ces personnes qui doivent quitter le territoire soient prises en charge de l'autre côté. Parce que d'avoir des personnes qui reviennent derrière, ça c'est aussi un énorme problème. Et on sait très bien qu'au niveau national, on ne peut pas gérer nos frontières et que c'est au niveau européen que ça se joue. Donc de toute façon, les expulser, c'est une chose. Mais où vont ces gens-là derrière ? Et de quelle manière ils reviennent.
Alors, avant de retrouver le quoi de neuf, j'aimerais juste vous faire qu'on fasse un tour de table. Le Pen refuse un débat avec Attal, le Premier ministre, et qu'il attaque en même temps. Il dit « Elle a peur et ça se voit ». Ça, c'est le Premier ministre.
Franchement, nous sommes dans une démocratie, il faut débattre. Comme je disais tout à l'heure, il faut les affronter, il faut débattre sur tous les sujets. Je pense que le Premier ministre doit, Madame Le Pen, c'est les courageuses, doit affronter le Premier ministre et venir discuter. Et c'est ça la démocratie.
Karim Alouach.
Alors moi, je trouve qu'elle est très, très maligne sur le sujet. Parce qu'elle est dans une posture de président, et un président, ça ne débat pas avec un Premier ministre. Ouais. Et elle lui renvoie son futur Premier ministre. Et
elle a été,
sur ce coup-là, elle est vraiment dans le rôle. Parfois, elle a été extrêmement maladroite, mauvaise. Sur ce coup-là, c'est un déni, c'est de dire court. Je ne discute pas avec toi. Voilà.
Ouais, Pierre-Henri.
Oui, enfin, c'est de la défausse de la part de.
Non, mais c'est pas mal ce que vient de dire Karim Manoua.
Oui, c'est de la grosse ficelle.
Non, mais elle vient en gauche, une. Voilà.
Oui, mais c'est de la grosse ficelle. Eh bien, non, elle n'est pas encore présidente. Et en ce qui me concerne, je donnerai toute mon énergie pour qu'elle ne le soit pas. Et j'espère que d'autres vont le faire et s'y mettre.
De toute façon, Attal aura ni le niveau pour Marine Le Pen, ni pour celui de Jordan Bardella, parce qu'il n'a pas d'expérience et que malheureusement, il est juste le porte-parole d'Emmanuel Macron.
Restez avec nous, justement. Restez. Pour une fois, on est à l'heure. Il est 19h49 et on va lancer le quoi de neuf.
Les informés. Le quoi de neuf.
Comme chaque mercredi, vous le savez, c'est avec le docteur Majid Soussine. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes là ?
Bonjour mon cher Adil, je suis là. Vous êtes là.
Alors, comment allez-vous tout d'abord, mon cher docteur ?
Écoutez, il fait un peu humide aujourd'hui.
Exactement. Je vous lance avec votre billet d'humeur et vous allez nous traiter, évidemment, d'une série de sujets concernant l'actualité, notamment celui de M. Manoukian.
Tout à fait, mon cher. Aujourd'hui, c'est une journée de grand paradoxe. À l'heure où la France est envahie par l'immigration, à l'heure où l'on envisage de faire abolir le droit du sol dans un département français, bien que nous prétendions que la République soit indivisible, à l'heure où un gouvernement fait voter une loi au Parlement qui valide la préférence nationale, à l'heure où le RN est désormais pour certains une partie de l'arc républicain, tandis que le président pense, lui, le contraire de son Premier ministre, à l'heure où le pays est sous la menace du terrorisme, à ce moment donc, on fait entrer au Panthéon un couple de terroristes étrangers, originaires d'Asie. Vous me direz, Adil, au moins eux ne viennent pas du Maghreb, ça nous change un peu. Ça n'est rien y comprendre, car les Manoukians sont la contre-démonstration de tout ce que l'on nous martèle. Des terroristes qui deviennent des héros, des étrangers qui sauvent la France, de surcroît des sans-papiers. Avouez que c'est quand même un peu fort de café, mon cher.
Oui, effectivement.
Si vous rajoutez que dans cette république laïque, je ne connais pas mieux que le Panthéon pour fabriquer des saints, on marche vraiment sur la tête. En tout cas, il y en a un qui a intérêt à faire attention à lui s'il ne veut pas être panthéonisé. C'est le président. La question qui interpelle la France aujourd'hui, c'est de savoir s'il va pouvoir aller au salon de l'agriculture sans se prendre une bouse de vache sur son beau costume bleu ou pire, un shampoing au lisier à la place de sa crème de beauté habituelle. Il a intérêt à faire attention, à faire des cadeaux aux agriculteurs, qu'il y a trois catégories que redoutent tous les pouvoirs en France. 1. Les paysans. 2. Les routiers. 3. Les étudiants. Et il n'est pas loin d'avoir fâché les trois. Il y en a un qui n'a peur de rien, lui par contre, et qui, tel le cobra, attend son heure, c'est Vladimir Poutine, qui, il y a un mois du scrutin qui va le voir réélu, s'est débarrassé de son opposant le plus célèbre, Navalny, après avoir éliminé Prigojine. Il sait cyniquement que le temps joue pour lui, que les démocraties occidentales n'ont aucun courage, qu'elles laissent toujours faire, écrasent les faibles, et s'affolent, et s'affalent devant les forts.
Temps, prenez votre temps, n'allez pas vous étouffer. J'aimerais pas évidemment avoir. Voilà, en direct, la coupe.
Le médecin en direct,
pour le coup, hein, là c'est le comble, hein, c'est le médecin.
Et oui, ça arrive. Et lui, en tout cas, Poutine s'en fout de rentrer au Panthéon.
Un verre d'eau, prenez le temps, mon cher docteur.
Bah écoutez, vous m'avez tellement bousculé, je suis tellement intimidé par votre majesté.
Oh là 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 là.
Ces débats de haute tenue que j'ai peur avec ma petite chronique misérable.
Ah, vous rigolez, vous êtes une véritable star auprès de vos auditeurs.
Écoutez,
ça va, ça va, vous allez bien, ça va, rassurez-moi.
Et j'espère être vivant pour la semaine prochaine pour essayer de rééditer ma chronique.
Bon, est-ce que vous avez fini votre chronique déjà ?
Ah bah je l'ai fini, bien sûr.
Bon, déjà, vous l'avez fini, c'est bien. Est-ce que votre voix se porte mieux ?
Ma voix se porte mieux pour l'instant, mais c'est mon carrefour oropharyngé qui est un peu encombré.
Bon, mais écoutez, allez prendre une cuillère.
Je sais que la production d'huîtres...
Allez prendre une cuillère de miel ou quelque chose de chaud, tiens, ça va vous faire du bien.
Je reconnais bien là le maghrébin toujours avec
son miel. C'est ça, exactement. Vous avez tout compris. Voilà, absolument. Absolument.
On pourra vous sauver. On n'arrivera pas à vous intégrer.
C'est ça, exactement. Allez, mon cher docteur, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Bravo pour votre billet d'humeur. Karim Aloum, à bientôt.
À très bientôt. Je voulais juste un petit mot.
Oui, bien sûr.
Alors, j'ai écouté attentivement l'infirmière qui revient de Gaza.
Oui.
Elle a fait un témoignage. Elle appelle à boycotter le produit d'Israël. Elle appelle à manifester. À aucun moment, elle a demandé la libération des otages. Et ça me gêne beaucoup. J'étais à le dire.
On lui dira la semaine prochaine.
Mais je le dis. Parce qu'il n'y aura pas de paix sur la libération des otages. Ouais. Il n'y aura pas de paix.
Merci,
il n'y aura pas de cessez-le-feu.
À bientôt, Merwan.
Merci, Adil. À très bientôt.
Karim Alouache, à bientôt.
À très bientôt.
Ouais, avec plaisir. Pierre-Henri, qu'est-ce qui vous arrive, Pierre-Henri?
À très vite.
Oui, regardez, très sévère.
Très vite.
Très sévère, vous avez vu.
Il est énervé, là.
Il est énervé.
L'as énervé.
Non, il n'est pas comme d'hab, je vous dis. Il n'est pas comme d'hab.
Je sais pas. Donc, c'est ce qu'il a, mais on ne peut pas le dire à l'antenne.
Je sais pas, je sais pas. Il est vénère, notre ami.
Il est vénère.
Solal, à la réalisation, Bilal Nedman, 20h-21h dans Time Sport. Vanessa, 21h, Kim, demain matin. Et quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurfm.com. Et l'appli Beurre FM.